Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Christelle Yesso.
Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette édition. À quelques heures de la CAN, la presse se mobilise pour retirer ses accréditations au Palais des Sports de Trècheville. Exceptionnellement, le dossier d'actualité vous sera présenté en milieu d'édition. Nous irons à Daloa où, bien que n'abritant aucune compétition, les populations de la ville s'attellent à vivre une CAN exceptionnelle. En économie, le bilan 2023 de la Direction générale des impôts enregistre un surplus de 50,2 milliards de francs CFA. Et à l'international, au Nigeria, la Cour suprême rejette les contestations contre l'élection des gouverneurs. C'est demain, samedi 13 janvier, que démarre la grande messe du football africain, la CAN 2023, qui se déroule du 13 janvier au 12 février 2024 en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture est prévue pour 18h25 au stade Alassane Ouattara de Bimpe et c'est à 20h que débutera le premier match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Mais avant cela, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, était ce vendredi face à la presse. Il a affirmé que les éléphants se préparent de la plus belle des manières pour ce premier match. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour une bonne prestation de son équipe, tout en comptant sur le soutien du peuple ivoirien. Pour la CAN 2023, la Côte d'Ivoire dispose de 6 centres d'accréditation de la presse, répartis dans les 5 villes hôtes du pays, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Abidjan compte 2 centres, un au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe et le second au palais des sports de Trècheville, où s'est rendu ce vendredi Jean-Claude Mabéa pour se rendre compte du processus de retrait des accréditations médias, suivant son reportage.
Le retrait des accréditations médias est un véritable parcours du combattant, à en croire les journalistes rencontrés à la salle d'accréditation du Palais des Sports de Trècheville. Abdoul Kapo, journaliste, et Momo Junior, blogueur.
Moi qui ai eu la chance de faire plusieurs camps, je pense que le processus est vraiment lent, pénible. Je constate qu'il y a une seule personne pour valider les accréditations et ensuite passer les autres étapes. Franchement, ça fait des heures qu'on attend, c'est pas normal. Il y a des pays où on a eu à faire la CAN. Au bout de 5 minutes, à ton accréditation.
Il faut noter aussi qu'il y a de la convivialité en fait. On parle de cas d'hospitalité et on est dans un beau bain de foule. On a profité pour rencontrer certains confrères de différents pays. En toute sincérité, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec en tout cas.
Processus Kaïcha Sanogo, journaliste malienne, juge normal, mais tout de même frustrant.
Tout se passe bien. Je trouve tout ça normal en fait. L'attente est vraiment longue, mais bon, on tient le coup, donc c'est un peu compliqué. Bon. Mais je peux comprendre aussi parce qu'on nous a dit qu'il y a des places limitées pour les journalistes. Peut-être qu'ils vont sélectionner par pays, par participants. En tout cas, je comprends, mais quand même, c'est un peu frustrant.
Les différentes étapes du processus d'accréditation média ont ensuite été expliquées par Cissé Korotoumou, volontaire au service accréditation.
Dès qu'un journaliste vient, il passe au poste des hôtesses qui vont lui prendre sa lettre de demande d'accréditation, son passeport ou sa carte d'identité, et nous, on vérifie que c'est la même personne. Et ensuite, il va aller vers les agents de la CAF qui vont lui délivrer son badge d'accréditation.
À noter qu'après l'obtention des accréditations, les journalistes passeront à la billetterie selon les matchs de leur choix.
En plus du centre d'accréditation de la presse, le Palais de la Culture de Trècheville abrite également le centre principal de presse ou Main Media Center. Ce centre est équipé de 10 écrans télé, d'une centaine d'ordinateurs de bureau, de différents postes de connexion, d'une connexion Internet haut débit et dispose d'une capacité d'environ 350 places assises et une centaine de casiers de rangement. La CAN se vit aussi à l'intérieur du pays. La ville de Bouaké abritera les matchs de la poule D, composée de l'Algérie, l'Angola, la Mauritanie et le Burkina Faso. En attendant l'entrée en compétition de ces formations, à partir du 15 janvier, le comité local de la CAN, le Colocan, a tenu à échanger avec les journalistes. Au cours de cette conférence de presse, le directeur du site COCAN a fait des précisions, dont Joseph Assalé, notre correspondant régional, nous en décline les grandes lignes.
De prime abord, le directeur du site du Colocan, comité local de la CAN à Bouaké, a annoncé l'arrivée progressive des équipes qualifiées pour la fête du football africain dans la capitale de la région de Gbeke. Maître Koné Yaya.
Depuis hier, la première équipe d'Algérie est à Bouaké. À 12h, aujourd'hui, les trois autres équipes arrivent selon les horaires suivants. À 14h, nous avons la Mauritanie qui nous vient directement de Tunisie parce qu'ils étaient en préparation. À 16h, l'Angola. Le Burkina Faso est actuellement à Dubaï, équipe Dubaï aujourd'hui à 11h, ils atterrissent à Abidjan à 16h et à 20h ils sont à Bouaké.
Puis il a fait les précisions suivantes.
Il faut retenir que le COCAN n'a prévu pour Bouaké qu'un seul fan zone qui se trouve être à l'espace orange. Pour le stade, vous avez un ticket, vous rentrez à la fin du match, vous sortez. Mais il va se trouver deux journées où nous aurons deux matchs. Un match à 14h, un match à 17h. On ne vous vendra pas deux billets pour le même match. C'est un billet, c'est un package. L'innovation majeure, c'est que lorsque vous achetez un ticket pour deux matchs, quand vous rentrez, si vous sortez du stade, vous n'avez plus accès. Si vous voulez revenir, il vous faut un nouveau ticket, puisque le ticket, quand vous le compostez, il est considéré comme validé.
Les journalistes, au cours de cette conférence de presse, ont souligné les difficultés pour l'obtention des accréditations. À cet effet, le directeur du site COCAN à Bouaké a rassuré qu'il se tient à la disposition des médias pour résoudre les problèmes à eux rencontrés afin qu'ils fassent leur travail en toute tranquillité. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Toujours à Bouaké, la CAF, Confédération africaine de football, a autorisé l'existence d'une seule fan zone. Pour y accéder, il faut se faire identifier par un code QR. Pour tenir au mieux informé la population, le préfet de police de la région du Gbeke s'est exprimé au cours d'une conférence de presse animée hier sur les dispositions sécuritaires arrêtées. Il est au micro de Joseph Assalé.
Lorsque vous arrivez à la fan zone, vous verrez qu'il y a des accès fermés à la circulation des piétons, des accès ouverts donc à la circulation des piétons, des accès fermés à la circulation des véhicules. Lorsque vous arrivez par le centre culturel Jacques Aka, vous arrivez à la fan zone, vous bifurquez à la droite. L'entrée se trouve du côté de la boulangerie Lara. C'est l'entrée principale. Il n'y a pas d'autre entrée. Vous arrivez là, vous faites contrôler l'élément qui dit que vous êtes fait enregistrer avec le QR code et vous avez accès. L'arrière du fan zone est réservé aux VIP, VVIP. Parce que l'une des instructions de la CAF au plan sécuritaire, c'est de faire en sorte que les véhicules ne passent pas là où les piétons passent et vice versa. Et donc, lorsque les populations voudront se rendre au fan zone, elles devront passer soit par le centre culturel Jacques Aka pour avoir accès, pour arriver sur le site. Et il y aura un couloir qui va vous permettre d'arriver à l'entrée. Il y a également un parking. Le site du fromager va accueillir ceux qui viendront du moins en véhicule au fan zone. Et il y a une voie qui part donc de ce parking-là jusqu'au fan zone. Il va sans dire que là où vous rentrez, ce n'est pas au même endroit que vous allez sortir. Lorsque le fan zone est mis en place, c'est pour un mois. On a fait en sorte qu'il y ait un accès pour la santé, pour le GSPM, un accès pour les VIP, VVIP.
Vous venez de suivre le commissaire divisionnaire Maxime Mobio, préfet de police de la région du Gbeke. Nous partons maintenant dans le Tonkpi. Comparativement aux autres départements de la zone, Biankouma ne veut pas rester en marge de la 34e édition de la CAN. Autorités administratives, élus et population s'approprient l'événement à travers la création des villages CAN. C'est à l'initiative du secrétaire départemental sous-préfectoral de la dite localité, Deli Mamadou. On en sait plus avec Stéphane Adams.
La prise de parole du représentant des récipiendaires des villages CAN, Sané Martial.
Celui qui nous offre ce grand cadeau est l'honorable Deli Mamadou. Au nom de tous les récipiendaires, merci.
Ici, le donateur Deli Mamadou démontre la force cachée de cette action.
Ce que nous avons remis comme kit, c'est pour une projection sur des écrans géants de 3 mètres sur 2 dans les grandes places publiques à Abidjan. C'est comme ça que la CAN va se regarder. Et nous avons voulu que nous nous efforcions d'accompagner nos parents dans cet événement national pour qu'ils vivent cela dans la ferveur de cette organisation. En fin de soirée, il sera organisé de 20h à l'aube sur l'esplanade de la mairie. Un concert pour égayer les parents avec 11 artistes de la région.
Le préfet du département de Biankouma à cette cérémonie, Soro Fatogoma.
Je suis agréablement surpris de cette grande mobilisation de nos parents. Il était donc important pour nous non seulement de venir ici, mais de vous appuyer surtout. Puisque l'objet, c'est de mobiliser et traduire dans les faits la volonté affiché du président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre, de faire de cette CAN une réussite chez nous.
Un repas d'ensemble a également meublé cette journée festive. Stéphane Adams, Biankouma, Radio de la Paix.
Une fois n'est pas coutume, pour rester dans la mouvance de la CAN, nous vous proposons exceptionnellement le dossier d'actualité maintenant et nous embarquons pour Daloa. Si la ville n'abrite pas de compétition pour la CAN, les populations sont toutefois plus que mobilisées pour célébrer l'événement. Du côté des autorités politiques et administratives, on s'implique pour permettre aux populations d'apporter leur soutien à l'équipe nationale. Et du côté de la population, les vendeurs de gadgets parés aux couleurs nationales profitent de l'occasion pour faire de bonnes affaires. Les maquis et autres espaces de divertissement font peau neuve pour accueillir cette fête nationale. Jean-Noël Kwame nous plonge dans cette ambiance de fête dans le dossier d'actualité.
50 associations estudiantines se sont mobilisées pour prendre une part active à ces festivités. Isaac Yvon Seidaï est le président du comité d'organisation du village CAN de Daloa, Nisre City.
Ce village CAN aura lieu à la cité Kalilou, la plus grande cité estudiantine, pour créer l'ambiance, la solidarité, l'harmonie dans le milieu estudiantin. Le match sera diffusé sur écran géant. Il y aura animation, il y aura un maquis géant. Ce qu'on met en avant le plus, c'est la sécurité. Nisre, c'est la traditionnelle bienvenue, comme nous sommes chez les BT. L'entrée est libre. Le message, c'est d'inviter toute la population de Daloa à venir nous rejoindre pour le Nisre City. On va s'amuser. On a confiance dans notre équipe nationale. On fera de notre mieux pour remporter cette canne-là.
À côté du milieu estudiantin, les maquis, les espaces publics dans la ville se parent aux couleurs de la canne. Kofi Nguessan Justin, gérant d'un maquis plein air, a apporté des innovations à son espace pour accueillir les clients au cours de la canne.
Nous avons apporté comme innovation la mascotte de l'éléphant. Nous avons la peinture orange, blanc, vert sur les murs. Nous avons le drapeau de tous ces pays qui participent. Et un écran géant qui va permettre à tout le monde de pouvoir assister à ce grand événement. J'invite tout le monde à pratiquer la paix et que le meilleur gagne.
Dans les marchés, les vendeurs de t-shirts, de drapeaux et autres gadgets aux couleurs nationales se frottent les mains. Les différents objets s'arrachent comme des petits pains.
Les prix grimpent chaque jour. 7 000 francs, 15 000, mais ce n'est pas leur problème, ils payent, ils s'en vont. Les supporters sont plus que déterminés pour apporter ce trophée.
À côté des petites organisations de quartier, la mairie et le conseil régional ont décidé d'offrir officiellement aux populations du Haut-Sassandra des espaces aménagés pour la fête. Beugré Dominique, directeur régional de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.
La région du Haut-Sassandra a reçu 489 jeunes bénévoles. 33 jeunes au Saïwa, 102 jeunes au Issia, 90 jeunes pour le Vavoie et 264 jeunes au Daloa. Ils seront amenés au sein des villages à Kouabakan à animer, mais aussi à assumer des missions de salubrité et aussi de sensibilisation sur la drogue, l'alcool, les IST et le VIH.
Les bénévoles se disent prêts pour la fête.
C'est un défi qu'on doit relever. En tout cas, ça sera la plus belle CAN de l'histoire de la CAN.
C'est une fête. On doit avoir l'esprit du fair play pour que cet événement soit une réussite.
Comme on le voit, les populations du Haut-Sassandra entendent jouer leur partition pour le succès de cette 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Parlons à présent économie. Pour l'exercice 2023, la Direction générale des impôts a engrangé 3 736 milliards de francs CFA contre un objectif fixé au départ à 3 685,8 milliards de francs, soit un écart positif de 50,2 milliards de francs CFA. Information donnée hier jeudi par le directeur général des impôts au cours du séminaire bilan annuel 2023 perspective 2024 initié par cette régie financière à Abidjan. Pour Ouattara Sié Abou, les conclusions et recommandations des travaux serviront de support et d'orientation pendant l'exercice de l'année 2024. On l'écoute au micro de Jean-Claude Mabéa.
2023 a été une année très difficile. Donc c'est dans un environnement économique à la fois national et international difficile que nous avons exécuté nos missions. Dieu merci, la Direction générale des impôts sort en termes d'exécution avec un léger excédent de 50,2 milliards. L'objectif, il était de 3 685,8 milliards. Au sorti, nous avons 3 736 milliards. Ce écart positif ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. Les besoins de l'État sont immenses. Il faut qu'on arrive à une logique avec une génération d'Ivoiriens qui feront en sorte que l'État ivoirien ne tendra plus la main pour financer le développement et le bien-être de nos populations. Mais pour le faire, il faut mobiliser le maximum de ressources domestiques. Alors, 2024, c'est 4 357 milliards, soit une augmentation de 621 milliards par rapport à la réalisation de 2023 et un taux de croissance de 16,6%. Comment faire pour arriver à boucler l'objectif et même à le surpasser au 31 décembre 2024? C'est ce que nous sommes venus discuter ici ensemble. Il n'y a pas de DG, il n'y a pas de planton. Chaque cerveau doit travailler pour qu'on trouve ensemble les stratégies qui vont nous permettre de réaliser l'objectif à la grande satisfaction du président de la République et de tout le gouvernement, parce que c'est la mission qui nous a été confiée.
Vous venez d'écouter Ouattara Sié Abou, directeur général des impôts. Intéressons-nous aux infrastructures routières dans le district d'Abidjan. Un jour après l'ouverture à la circulation des infrastructures routières dans le Grand Abidjan, la voie de contournement Y4, le tunnel de la mairie d'Abobo et le quatrième pont de Yopougon ont commencé à être empruntés par les populations. Pour comprendre si ces infrastructures ont effectivement résolu les problèmes de mobilité des Ivoiriens, Jean-Mélène Bitti s'est rendu sur le terrain. Suivons son constat dans cet élément.
Après l'ouverture à la circulation du quatrième pont par le Premier ministre, nombreux sont les Ivoiriens qui ont emprunté cette infrastructure routière qui relie la commune du Plateau à celle de Yopougon. Comment reçoivent-ils cette ouverture? Écoutons ces deux automobilistes que nous avons pu interroger.
Louis Espère Ferdinand, la circulation est très très bonne. Du Plateau à Yopougon, à peu près 4 minutes.
Kone Abdoulaye, franchement c'est chic. Depuis matin, mes collègues me parlent de ça, mais... Il a dit, bon, comme on ne me parle de ça depuis là-dedans, je vais venir ce soir pour voir si c'est réellement ouvert. Je suis venu, c'est ouvert. Ce n'est pas totalement fini parce que l'UPR n'est pas encore fini, mais la voie est vraiment très praticable, c'est chic. Il n'y a pas de mot à dire. En carburant, ça va nous permettre d'économiser et ça va nous permettre d'éviter beaucoup d'embouteillages aussi.
Contrairement à Yopougon, à Abobo, la joie a été de courte durée. Malgré l'ouverture du tunnel, les embouteillages persistent. Une chose que Kamagaté Amadou ne comprend pas.
Ce matin, je suis passé dessus pour aller à Trajeville. Vraiment, pas d'embouteillage, mais ce soir, moi-même, je suis étonné de voir embouteillage à ce niveau ce soir. Je ne sais pas c'est dû à quoi.
Abiola Abou, chauffeur de Gbaka dans la commune d'Abobo, lui donne sa recette pour mettre fin aux embouteillages sur la voie express Abobo à Niama.
Le côté de la gendarmerie, là, il faut libérer ça. Ici, il n'y a pas de problème, mais on va revoir les calculs. Parce que dès que tu sois ici net, c'est le feu. Donc, on aura toujours l'embouteillage sur ce sens-là.
Malgré l'ouverture à la circulation de ces infrastructures routières, certaines restrictions demeurent actuellement sur le tunnel de la mairie d'Abobo qui lui reste pour l'instant interdit au Gbaka.
À l'international, la Cour suprême du Nigeria a rejeté ce vendredi une série de recours contre les résultats des élections des gouverneurs en mars 2023, fragilisant le parti présidentiel dans plusieurs États. L'institution a statué en faveur de 5 gouverneurs de partis de l'opposition, dont l'un des principaux, le Parti démocratique populaire, dans 3 États, et en faveur de 3 gouverneurs appartenant au parti du président Bola Ahmed Tinubu, le Congrès des progressistes. Ces décisions représentent la dernière décision majeure de la Cour suprême dans le cadre des élections de l'année dernière. Après avoir accusé le Rwanda de soutenir un groupe rebelle qui a mené des attaques sur son sol, le Burundi a annoncé le 11 janvier la fermeture de la frontière avec son voisin, qui a rapidement regretté une décision unilatérale. Au poste frontière entre les deux pays, des transporteurs, voyageurs ou commerçants se retrouvent bloqués. Et voilà qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. À quelques heures de la CAN, la presse se mobilise pour retirer ses accréditations médias au Palais des Sports de Trècheville. Le dossier d'actualité vous a présenté la ville de Daloa où les populations, bien que ne recevant pas de compétition de la CAN, s'attellent à vivre une expérience particulière. En économie, le bilan 2023 de la Direction générale des impôts enregistre un surplus de 50,2 milliards de francs. Et au Nigeria, la Cour suprême rejette les contestations contre l'élection des gouverneurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après votre magazine humanitaire avec Sonia Nzian. Bonne suite de programme sur Radio de la Paix.
Humanitaire.